Est-ce que vous vous souvenez de l'âge de Moïse, à l'époque où il annonce, où il répète la loi aux tribus d'Israël? Il a 120 ans. Il est à la fin de sa vie, comme Madame Calment, pour ceux qui connaissent la doyenne des Français. The dean of the French people was 120 some when she died. Il a passé 40 ans à essayer de faire quelque chose dans sa force. Le Seigneur l'a mis 40 ans sur la touche, puis lui a donné 40 ans de ministère effectif. Et là, il arrive à la fin de sa vie. Il va bientôt monter sur le mont Nebo pour aller mourir sur le mont Nebo, le mont Pisga. Il va passer les rênes à Josué, son commandant en second. Mais avant de partir, il va leur répéter avec toute l'énergie de son cœur, de son amour, les commandements de Dieu. Et c'est ce dont parle le Deutéronome. C'est une longue présentation, un rappel de la loi. Avec le chapitre 26, nous arrivons à la fin des détails. Nous allons lire quelques versets ensemble. Je vous invite à lire par vous-même tout le texte. Nous allons survoler un peu. Pas maintenant, mais plus tard. Verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu en prendras possession et que tu l'habiteras, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire demeurer son nom. Tu iras vers le sacrificateur en fonction ces jours-là et tu lui diras: « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères de nous donner. » Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Verset 5, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. » Les prémices. Voilà, la traduction anglaise, c'est les premiers fruits, c'est donc les premières récoltes de ce que les Israélites avaient planté en terre promise. Ils devaient, une fois rentrés dans le pays, dans la terre promise, ils devaient recueillir certains de leurs récoltes et les donner, les offrir à Dieu, pour reconnaître que toute la récolte, en fait, elle appartenait à Dieu. Ils devaient faire ça une fois qu'ils étaient entrés. Et une chose, et il est dit, je suis entré, c'est verset 3, tu peux déclarer à l'Éternel ton Dieu: je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et donc, ils étaient en terre promise, ils ne disaient pas: j'espère que je vais y entrer, je voudrais bien y entrer. Mais il pouvait dire: je suis entré. Dieu nous promet le salut. si nous acceptons le sacrifice de son Fils, si nous l'invitons à diriger notre vie dans notre cœur, si nous avons fait ça, nous pouvons dire « Je sais que je suis entré ». Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent toujours qu'ils espèrent bien y entrer un jour. Il est très important de savoir que vous êtes entré. Une fois qu'ils étaient entrés, ils donnaient leurs ressources à Dieu. Et l'application, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous savons que nous sommes sauvés, Dieu nous appelle à donner de nos ressources, notre temps, notre argent, notre énergie. C'est que l'équipe a donné beaucoup d'énergie. On a prié pour eux. Le Seigneur les a utilisés parce qu'ils se sont donnés. Des fois, on pense que donner au Seigneur, ça veut dire donner 100 francs dans la caisse, comme une offrande. Dieu n'est pas intéressé par votre argent. Il n'est pas intéressé par mes ressources. Dieu veut votre cœur, il veut mon cœur. Une fois qu'il a notre cœur, nous lui donnons des choses, nous lui donnons notre énergie, notre temps, notre argent. Mais la première chose, c'est d'entrer, de savoir que nous sommes entrés dans cette terre promise. J'aime bien l'expression « Mon père était un araméen nomade ». Verset 5. J'aime bien l'expression, quand on me demande ce que je fais, je dis « Mon patron est un charpentier juif. » Et c'est un peu le même genre. Mon père était un araméen nomade. De qui s'agit-il? Ça, c'est les juifs qui devaient dire que leur père, c'était quelqu'un qui était nomade. Ils expliquent comment ils sont partis en Égypte, et bien sûr, là, il s'agit de Jacob, qui allait être renommé Israël, et qui allait devenir l'ancêtre, le père de la race israélite. Mais à l'origine, c'était que quelqu'un, l'expression nomade pourrait se traduire aussi par quelqu'un qui allait périr. Il n'était pas en grande forme. Donc cette fuite en avant, il bougeait parce qu'il savait qu'il était prêt à périr. Ce n'était pas parce qu'ils avaient un héritage royal de par leur naissance. Mon papa, c'était un immigrant. Ce n'est pas parce qu'il était spécial que Dieu l'a choisi, encore une fois. C'est parce qu'il, par sa souveraineté et son amour, il avait décidé de choisir des gens. J'aime bien croire que Dieu aurait pu choisir les Corses. Dieu voulait s'incarner. Et dans sa souveraineté, sa toute knowledge, sa connaissance infinie, il a décidé de venir sur la terre dans le peuple juif. Je ne sais pas au niveau des Corses, mais tout ça pour dire que ce n'était pas parce qu'eux étaient spéciaux, c'est lui qui était spécial, qui les avait choisis. Et lorsque Dieu nous choisit, c'est pas parce que nous sommes spéciaux. Sa grâce et son amour. que nous ne croyons jamais que nous sommes des gens spéciaux, spirituels, ou qui valent mieux que les autres. C'était le problème des Juifs. L'amour, le privilège qu'ils avaient, ils en ont fait un objet d'orgueil national. Et ils ont pensé que ceux qui les entouraient étaient moins qu'eux. Alors que Dieu voulait toucher tous ces gens par eux. J'ai eu la joie d'assister à la dernière soirée vendredi à l'église où l'équipe de la MENA a fait un concert de musique arabe. Et en fait, il y avait beaucoup d'autres nationalités représentées. J'ai parlé à un couple russe, elle était russe, lui était pakistanais. Ils avaient tout perdu. Ils habitent dans un hôtel. Ils n'ont pas de papier. C'est pas parce que Dieu les aime moins que nous. Dieu les met à notre porte parce qu'il veut que nous les touchions pour lui. Mais Dieu avait choisi le peuple d'Israël, il avait dit qu'il deviendrait une nation grande et puissante, nombreuse. Les versets suivants rappellent comment il les a fait sortir d'Égypte. Et comment il leur a donné ce pays découlant de lait et de miel. Les Israélites avaient un devoir de souvenir. Parce qu'en se rappelant tout ce que Dieu avait fait, ils pouvaient se rappeler que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui tient ses promesses. Nous aussi, nous devons nous rappeler que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il a dit qu'il serait exalté parmi toutes les nations. Nous commençons à le voir ici même. Ces offrandes qu'ils offraient à Dieu, c'était verset 10, ils devaient les déposer devant l'Éternel, leur Dieu, en se prosternant devant lui. L'offrande était un acte d'adoration, de louange. Ils se prosternaient. Je crois qu'il faut qu'on se sente libre dans l'adoration de Dieu. Si, lorsque nous avons des réunions de prière, ou même pendant qu'on prie, si vous vous sentez mieux pour prier en vous mettant à genoux, n'hésitez pas à le faire. Le seul souci que vous devez avoir, c'est de ne pas détourner l'attention qui doit être sur Dieu vers vous. Si vous voulez chanter en levant les mains, faites-le. Si vous sentez que les gens autour de vous sont complètement choqués, alors peut-être soyez sensible à ça. C'est une parenthèse. Après les offrandes, qui étaient un acte d'adoration, il y a un auteur américain qui est croustillant, J. Vernon McGee, qui dit qu'il est bon de confirmer notre louange en mettant la main au portefeuille. C'est vrai que l'argent, c'est souvent la chose la plus précieuse que nous retenons. Et donc après cette offrande, cette adoration, il est question de la présentation des dîmes. Verset 11, il devait se réjouir avec le lévite, c'est-à-dire le prêtre, l'immigrant. On parlait d'immigrants, il y en a à Nice et en France, qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Verset 11. Tu te réjouiras. Encore une fois, Dieu veut que nous soyons joyeux. S'il y a des gens qui ont des raisons d'être joyeux, c'est bien nous qui sommes sauvés par notre Seigneur, qui avons accès à la vérité, qui pouvons être bénis par la communion fraternelle. J'aime bien la définition. Quelqu'un a dit, la joie, c'est la paix qui danse. Et la paix, c'est la joie qui se repose. La joie, ça ne veut pas dire toujours être en train de sauter, de claquer des mains, d'avoir un sourire artificiel collé à la... Mais ça doit être sensible dans notre vie. Ça doit être quelque chose qui nous caractérise, la joie, la paix. Et si nous ne l'avons pas, alors nous devons demander à Dieu qu'il nous remplisse de cette paix, de son Esprit Saint, qu'il nous donne la paix, de l'amour. Jésus, bien sûr, a beaucoup souffert, il a connu la souffrance. Il est dit dans le psaume 45 qu'il a été oint d'une huile de joie au-dessus de tous ses frères. Continue donc avec des prescriptions sur la dîme. Tous les 3 ans, il y avait une dîme de charité qui a été ajoutée à la dîme annuelle. Et il y avait un temps de prière solennelle qui permettait aux gens peut-être de se recueillir et de voir devant Dieu s'ils avaient vraiment fait tout ce qu'ils devaient faire au niveau de cette aide financière. Et il devait dire au verset 13 qu'il avait donné tout ce qu'il fallait aux lévites, à l'immigrant, à l'orphelin, à la veuve. Savoir que Dieu dit que on peut voler Dieu en ne lui donnant pas ce qui lui revient. Et il a même, c'est le seul endroit de la Bible, dans Malachie, où il dit qu'il demande aux gens de le mettre au défi, de donner et de voir s'il ne va pas donner davantage en retour. Ensuite, il est question de pratiques, on pense que c'était peut-être des pratiques cananéennes, verset 14. Des peuples incroyants qui donnaient peut-être des offrandes pour les morts. Mais verset 18, il devait rappeler que l'Éternel t'a fait promettre d'être un peuple qui lui appartient en propre, comme il te l'a dit, et d'observer tous ses commandements. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc, toujours cette ancienne alliance, si Israël obéit aux commandements, alors ils vont être bénis, ils vont être placés au-dessus des nations. Il doit être un peuple séparé, mis à part pour Dieu. Il est dit des fois un peuple particulier ou personnel. Mais ça dépendait de leur obéissance. À partir du chapitre 27, il est question de renouveler l'alliance. 27:1. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Il leur explique au verset 2 que le jour où ils auront passé le Jourdain pour entrer dans la terre promise, ils devront dresser de grandes pierres et les enduire de chaux. Et verset 3, tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays de coulant de lait et de miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsqu'ils auront passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal des pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Ils devaient bâtir, verset 5, un autel à l'Éternel, un autel en pierre non touché par le fer. Ils devaient bâtir en pierre brute un autel. Et donc, Moïse leur demande, Dieu leur demande par Moïse, de bâtir une espèce de grandes affiches ou de grands panneaux, de grandes tours. De le recouvrir avec de la chaux blanche. Et on pense qu'il devait écrire les 10 commandements et peut-être certaines de ces lois qui sont répétées. Pour qu'elles soient bien visibles de tous. C'était avant les multimédias. Il n'y avait pas d'affiches, il fallait frapper l'imagination que personne ne puisse dire je ne savais pas. Et ça, il devait le faire sur le mont Ébal. On va en reparler. Et là, il devait aussi construire un autel pour Dieu. Et on retrouve une prescription qu'on retrouve dans Exode 20, juste après les 10 commandements. Il ne devait pas toucher les pierres avec des instruments de métal, il ne devait pas travailler la pierre. Parce qu'il est expliqué dans Exode 20 qu'en touchant la pierre, il l'a profanée. L'autel était profané. Si nous approchons les choses spirituelles avec nos outils humains, les outils du monde, alors nous profanons la chose spirituelle. Ça peut paraître très, très lointain ce problème, mais en fait c'est un problème bien pratique. Est-ce qu'on peut faire de la publicité pour l'évangile? Je pense que oui. Mais de quelle façon? C'est peut-être autre chose. Payer des spots pendant le loft, je ne crois pas que ce soit très bon. Ce serait d'abord très cher. Mais l'idée, c'était d'utiliser quelque chose que Dieu avait fait, du rustique. L'idée aussi, c'est que si on bâtit quelque chose de très, très beau, on va avoir tendance à fixer nos yeux sur la chose qui est belle. C'est vrai que quand on voit une belle cathédrale, on peut bien sûr rencontrer Dieu dans une cathédrale. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a des touristes qui viennent voir les vitraux, qui prennent des photos, mais qui oublient qu'ils sont rentrés dans un endroit qui était destiné à Dieu. Sur cet autel, il devait offrir d'abord, verset 6, des holocaustes. Un holocauste, on l'a étudié, c'était un sacrifice où l'animal était complètement offert à Dieu, en le sens qu'il brûlait et qu'il s'en allait en fumée. Et c'était un signe de consécration complète. Je me donne complètement à toi par ce sacrifice qui est entièrement pour toi. C'était une occasion un peu triste, un peu sombre, dans le sens où c'était je me donne à toi. Et puis à côté, il y avait ce qu'il devait offrir, c'était des sacrifices de communion, verset 7. Et un sacrifice de communion, on dirait aujourd'hui, c'était un barbecue avec Dieu. Une partie était donnée à Dieu, mais l'autre partie était consommée par ceux qui offraient ce sacrifice. Donc ça symbolisait une communion entre les hommes et Dieu. Et il était dit qu'il devait se réjouir en faisant ça. Donc là, l'holocauste, c'était une consécration. Le sacrifice de communion, c'était une célébration. Et donc, il devait écrire les lois sur ces pierres. Et puis, il y avait une chose un peu étrange. On réunissait tout le peuple d'Israël devant deux montagnes. Il y avait d'abord le mont Ebal, dont on a parlé. Et puis, le mont Garizim. Donc il est question dans Jean. Et les tribus, les lévites, les prêtres se répartissaient sur les deux montagnes. D'un côté, il y avait, verset 12, donne la composition de ces tribus. Tous les descendants de Jacob par Léa et Rachel, les femmes qu'il avait eues. Et puis de l'autre côté, il y avait les autres enfants de Jacob, plus deux autres enfants, Ruben et Zabulon. Si vous voulez rafraîchir votre mémoire, c'est la Genèse 35, 23 et suivant qui rappelle un peu les enfants. Il y en a qui sont déjà allés en terre promise, en Israël. J'ai pas encore eu la joie d'y aller, mais je sais que apparemment cet endroit se trouve à la ville de Naplouse aujourd'hui, dans la vallée de Sichem. Et d'un côté il y a le mont Garizim, de l'autre côté il y a le mont Ebal. Garizim, oui. Et puis le peuple se tenait au milieu, dans la vallée. Et du côté du mont Ebal, les Lévites prenaient la voix en donnant 12 malédictions. Verset 14, les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, verset 15, maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image en métal fondu. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Donc il devait y avoir un écho, les Lévites pouvaient annoncer ces malédictions à voix haute, et le peuple devait répondre « Amen ». On est d'accord avec ça. On pourrait faire toute une étude sur ces malédictions qui montrent aussi le cœur de Dieu. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle. Ou celui qui porte atteinte aux droits de l'immigrant, d'orphelin, de la veuve. Dieu est toujours pour les faibles, pour les opprimés. Ensuite, il est question de péché sexuel, il est question d'inceste, de bestialité. Verset 24, « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. » Et l'idée, c'est toujours de rappeler, de nous rappeler aussi que rien n'est fait en secret. Nos cœurs sont à nu devant Dieu. Et donc ça doit être une incitation à vivre dans la pureté, à contrôler nos pensées, en donner le contrôle à Jésus. Et donc toute cette série de malédictions. Et puis verset suivant, voici les bénédictions qui vont découler. Et ce « si » c'est un grand « si ». Il y a une chanson qui disait qu'avec des « si », on pourrait mettre Paris en bouteille. Yeah. If the bottle was big, if Paris was smaller. Mais ça veut dire qu'avec « si », on peut faire n'importe quoi. Et là, ce « si », c'est un peu ce genre de « si ». Si vous obéissez parfaitement, alors regardez toutes ces bénédictions. Verset 3, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, peu importe où tu ailles. Toute ton activité sera bénie, le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins, les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Autrement dit, votre congélateur sera plein. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel s'occupera de tes ennemis. Ils viendront, j'aime bien l'expression, verset 7, ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils vont repartir par 7 chemins. Autrement dit, ils vont être tellement mis en déroute et éparpillés, ils vont partir dans tous les sens. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, une répétition. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Autrement dit, Israël devait être un témoignage au monde entier de l'amour, de la grâce de Dieu, de sa bonté. Mais en fait, on sait, on le verra, qu'ils ont été un témoin justement de leur infidélité et de la sévérité de Dieu. Donc ces bénédictions continuent jusqu'au verset 14. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique, que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres dieux, pour leur rendre un culte. Mais, verset 15, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors il reprend les mêmes choses, mais tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel, verset 22, te frappera de dépérissement, de toutes sortes de maladies, de maladies des cultures, des animaux. Verset 23, il y aura un ciel de bronze. La terre sera comme du fer. On peut penser que ça veut dire que les prières vont plus pouvoir passer. Mais ça veut surtout dire qu'il n'y aura plus de pluie pour irriguer les cultures. Et donc, le reste, on va voir, en fait, ça devient malheureusement des paroles prophétiques de ce qui allait arriver à Israël. Il continue en disant toujours, si vous n'observez pas à la lettre tous mes commandements, alors l'Éternel te frappera, verset 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveugle, de déraison. Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle, tu t'attends dans l'obscurité, tu ne réussirais pas dans tes desseins, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. 29, pardon. Et en fait, les versets qui suivent, on peut trouver leur accomplissement dans l'Ancien Testament, malheureusement. Tes fils, tes filles seront livrés, verset 32, à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, tu n'y pourras rien. Ce qui est arrivé au roi Sédécias, entre autres. Il a pu voir ses enfants exécutés devant lui. Un peuple qui n'avait pas connu manger le fruit de leur sol, le produit de leur travail. Verset 34, le spectacle que tu as sous les yeux te jettera dans le délire. Et il est question ensuite, on peut voir les prophéties des captivités d'Israël. Vous savez que plus tard, Israël a été divisé. Il y a eu deux royaumes, le royaume d'Israël et du nord et le royaume de Juda du sud, avec Jérusalem. Et il parle donc de cette première captivité en Assyrie. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, vers une nation que tu n'auras pas connue. Et on voit vraiment un spectacle de désolation. Verset 37 et suivant. Tes enfants iront en captivité. Les grillons prendront possession des arbres, des fruits d'Israël. Et Israël deviendrait le plus bas que tout. Verset 45, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Et là, le mot détruit, c'est pas complètement exterminé, mais c'est être complètement accablé, parce qu'on sait que Dieu allait préserver un reste d'Israël. En continuant, on peut voir l'invasion romaine. En l'an 70, Israël, la capitale de Jérusalem, a été complètement détruite. Et je vous laisse lire tout ce passage. C'est ce que Dieu promet à Israël s'ils ne sont pas parfaits. Verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre. Et ceci s'est passé jusqu'à l'an 1948 où Israël a enfin été réuni dans un territoire. Des millions de juifs ont été persécutés au cours de l'histoire. Verset 66, ta vie sera comme en suspens devant toi, tu auras peur la nuit et le jour, tu douteras de ton existence, tu diras le matin si seulement c'était le soir, et tu diras le soir si seulement c'était le matin, à cause de la peur que tu éprouveras dans ton cœur et du spectacle que tu auras devant les yeux, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à tes ennemis, comme esclaves et comme servantes, il n'y aura personne pour vous acheter. C'était l'ancienne alliance. Lévitique 18 rappelait, vous garderez mes principes et mes ordonnances, l'homme qui les pratique vivra par eux. Autrement dit, une alliance était comme un contrat au moderne. Et Dieu avait passé un contrat avec son peuple. D'abord avec Abraham, il l'avait renouvelé avec Noé et avec Moïse, mais c'était toujours l'ancien contrat. J'ai changé un peu mon contrat d'assurance, et c'est vrai qu'il faut lire les détails. Et cette alliance, cet accord avec Dieu pour être béni, il avait un problème. Le problème, c'est qu'il dépendait de l'homme. L'homme devait respecter à la lettre. Cette alliance, ce contrat était fondé sur leur obéissance, sur leur respect de la loi. Nous savons que l'homme, dès le jardin original, est tombé dans le péché, que nous avons en nous, quand nous naissons naturellement, une nature de pécheur, et que nous sommes incapables d'obéir à la loi parfaitement. Et donc, Moïse était allait monter sur le mont Nebo et il leur disait, vous allez être bénis par votre obéissance. Et il y a 2000 ans, un autre homme est monté sur une montagne du Calvaire. Mais il a changé les termes. Vous allez être bénis si vous vous souvenez de moi. C'est plus l'obéissance qui détermine notre bénédiction. C'est notre acceptance, notre acceptation, notre réception de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu. Est-ce que vous sentez une chape se lever de dessus de vous? Je vous invite encore à relire les malédictions et les bénédictions et voir toutes les choses horribles que Dieu promettait si on n'obéissait pas parfaitement à sa loi. Dieu n'a pas fait une erreur. Il a donné cette première alliance pour que nous sachions de quoi nous sommes faits. Que nous reconnaissions que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et puis Dieu a établi une nouvelle alliance avec l'homme. Jésus, après avoir soupi, prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ce nouveau contrat, cette nouvelle alliance, elle repose sur Jésus-Christ. Sur ce qu'il a fait. Plus sur ma capacité d'obéir et d'être parfait. Ma foi en lui me permet de faire l'expérience de sa bénédiction sur ma vie. Pas parce que je suis devenu exceptionnel, parce que j'obéis parfaitement à sa loi, mais parce qu'il a établi une nouvelle alliance. Et tout ce qu'il faut, c'est la foi. Il la met à mon compte bancaire. Si l'ancienne alliance était toujours en vigueur, alors je serais maudit comme les Israélites l'ont été au cours de leur histoire. Mais parce que cette alliance ne dépend plus de moi, de l'homme, alors nous pouvons nous réjouir, nous pouvons tous entrer. Et la chose merveilleuse, c'est que il nous donne aussi la capacité d'obéir. Ces commandements que nous ne pouvions pas, auxquels nous ne pouvions pas obéir par notre chair, il vient, par son Esprit Saint, nous aider à les respecter. Le christianisme, c'est pas l'homme qui essaye de mériter l'amour de Dieu, qui monte sur une échelle pour s'approcher de Dieu en faisant des sacrifices. Le christianisme, c'est l'infini qui vient toucher le fini. C'est Dieu qui descend en Jésus-Christ qui vient toucher. La merveilleuse chose, c'est qu'à ce moment-là, nous pouvons entrer dans cette nouvelle alliance. Je fais confiance à Jésus-Christ. Je continue de pécher involontairement. Si je continue à pécher volontairement, Dieu me châtie, me punit, pas pour me détruire, mais pour me corriger. Jésus me lave et me purifie de tout péché. Il me donne la puissance de vivre une vie qui plaise à Dieu. Je vous dis, c'est le meilleur contrat en toute la vie. Nous allons justement prendre la Sainte Cène pour nous rappeler que Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Que ça dépend plus de notre perfection, mais ça dépend de la perfection de Dieu, de son travail parfaitement accompli à la croix. Cette communion, c'est réservé à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur cœur. Même si vous n'êtes pas baptisé, si vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, nous considérons que vous êtes bienvenus à la table du Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre cœur, à ce moment-là, on vous demandera de laisser passer les éléments, le pain et le vin, et le jus de fruits. Et peut-être prier. Il n'est pas trop tard, même maintenant, pour recevoir le Seigneur. Et on va prier. Et si vous réalisez que vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie, je vous invite à prier une prière. Prions ensemble. Et si vous priez cette prière de tout votre cœur, à ce moment-là, vous pourrez participer à la Sainte Cène. Seigneur, merci de me faire réaliser la nature du péché. De voir que tout ce qui est mal mérite d'être puni par toi. Toi qui es parfait, qui es saint, qui est l'amour, qui est la vie. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Vous pouvez prier cette prière en silence, dans le secret de vos cœurs. Seigneur, je reconnais que toute ma vie, je me suis détourné de toi. J'ai vécu sans égard pour ta volonté. Mais Seigneur, je reconnais que je commets des fautes, des péchés qui te font du mal. Je te demande pardon parce que tu es mort sur la croix. Seigneur, je sais que tu me pardonnes. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir habiter dans ma vie, de la diriger. Je reçois ton Esprit Saint. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Je me détourne de mes péchés, Seigneur, je veux aller vers toi. Amen. Il y en a qui ont prié cette prière? Si vous l'avez fait, vous pouvez recevoir la communion. Sinon, c'est une prière que vous pouvez faire à n'importe quel moment. C'est la décision la plus importante de toute votre existence. Parce que ça affecte votre éternité. Nous allons passer les emblèmes. Je demanderai à Paul et Rain de bien vouloir passer le pain et le vin. Maintenant. Et je vais vous demander d'attendre que nous ayons tous reçu les emblèmes. Il est possible qu'on n'ait pas assez de coupes, mais ça ne fait rien. Le team peut attendre. Oui. Car oui. Le team est à vert. Profitez de ce temps pour prier et remettre à Dieu vos péchés, vos manquements. S'il y a des choses que vous devez, pour lesquelles vous devez demander pardon à un frère, à une sœur, c'est aussi un moment. Dans le recueillement, vous pouvez aller demander pardon. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain qui symbolise le corps battu de notre Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons la coupe, on ira pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette nouvelle alliance, Seigneur. Apprends-nous à vivre dans la confiance que nous sommes entrés. Que tu nous donnes la force d'obéir à ces commandements. Et que c'est toi qui as tout accompli. Nous allons terminer par un chant, si vous voulez.
Tu me fais passer les barrières, tu passes le milieu du temps, tu passes le ciel en l'air,
bénédiction de que maintenant nous pouvons être en contact intime avec toi, Seigneur. Nous pouvons par le sang de l'agneau entrer jusqu'au sein des saints. Aide-nous à y vivre, Seigneur, cette semaine. Que ce temps ne soit pas un temps réservé au dimanche, Seigneur. Que chaque jour nous cherchions ta présence, Seigneur, entre nous. Dans ton amour et à vivre par ta puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous rassois avant qu'on termine. Je vais laisser la parole à Mike qui a quelque chose à nous annoncer.
Bonjour tout le monde. J'ai une nouvelle à vous partager, c'est quelque chose un peu difficile à exprimer. Depuis quelques temps, Becky et moi, nous sommes en train de prier, et nous avons ressenti l'appel de Dieu d'aller à Paris et implanter une église Calvary-Chapelle. Alors, si tout va bien, si c'est la volonté de Dieu, on ira mois d'octobre. Alors, si vous y pensez, priez pour nous. Merci.
Paul et Paul, James, Becky, qui veut venir. Alors bien sûr, c'est. Je lisais cette semaine dans un commentaire, il y a. Pour tout événement, il y a deux façons de les voir. La première, c'est de voir comment ça m'affecte personnellement. Et bien sûr, parole. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à ton Esprit Saint. Tu vois combien chaque jour de la semaine, nous sommes bombardés par les messages du monde, le diable qui nous tente, notre chair qui est prête à pécher, Seigneur. Et c'est vrai qu'il est bon de lire ta parole chaque jour, Seigneur, mais il est bon de le faire ensemble, collectivement, Seigneur. Et nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. C'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur. Et ouvre nos cœurs, agis dans nos vies, Seigneur. Te demandons, nous prions pour des mots de sagesse, Seigneur, des mots de connaissance, des mots de prophétie qui seraient inspirés par toi et qui nous toucheraient les uns les autres au plus profond, Seigneur. Merci pour cette parole qui est la vérité, Seigneur, qui ne change pas. Le monde passera, mais ta parole, Seigneur, elle restera, Seigneur. Fortifie-nous, encourage ceux qui vont se retrouver les semaines suivantes, Seigneur. Amène des visiteurs, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Seigneur, que tu continues d'être glorifié parmi nous. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.